Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Lettres d'amour de François Mitterrand, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Renaud Meyer, réalisée par Laurence Courtois. La fiction d'aujourd'hui raconte une partie de l'histoire et de la vie de François Mitterrand, président de la République française, du 10 mai 1981 au 17 mai 1995. La fiction commence à l'été 62. François Mitterrand a alors 46 ans. Il est en vacances dans les Landes et rencontre chez ses voisins d'Osgore une jeune femme de 19 ans, Anne Pinjot. 27 ans les séparent, mais Anne et François vont devenir amants. Et pas un jour ne passe sans que François n'écrive à Anne. Ces 1200 lettres d'amour que l'ancien président lui a écrites pendant ses 32 ans de vie amoureuse et secrète, Anne Pinjot a autorisé Gallimard à les éditer. Le livre, intitulé « Lettres à Anne », est sorti en 2016 dans la célèbre collection Blanche. Extrait. « Mon bonheur est de penser à toi et de t'aimer. Tu m'as toujours apporté plus. Tu as été ma chance de vie. Comment ne pas t'aimer davantage ?» Prince de l'ambiguïté, personnalité ondoyante, maître de l'équivoque, comme le dit l'historien et biographe Michel Vinocq, François Mitterrand, c'est aussi une intelligence et une culture hors normes. Ses amis lui donnaient le surnom de Florentin, en référence à l'art de l'esquive pratiqué par des gens de la Renaissance, comme Machiavel. Mais au-delà de son action politique, François Mitterrand demeure un personnage romanesque des plus passionnants. Avec sa part d'ombre et sa part de lumière, oui, sa vie est un roman, une épopée qui s'y frotte, s'épique. Pour nous aider à explorer cet univers secret de la passion amoureuse et de la politique, de nous approcher de la personnalité de François Mitterrand, nous recevrons dans la seconde partie de l'émission Laure Adler, écrivaine, journaliste, conseillère culturelle à l'Élysée et aujourd'hui productrice de L'Heure Bleue, tous les jours à 20h sur France Inter.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Lettre d'amour de François Mitterrand, de Renaud Meyer.
Vous avez fait un beau parcours, Mitterrand.
Oui, mais je ne décolle pas de ce maudit 87.
Et moi, un misérable 91.
Il y a du progrès. Hier, vous avez fait 89.
Je ne serai jamais prêt pour cette compétition.
Ah, vous avez manqué quelques potes plutôt faciles, c'est dommage.
Je ne sais pas pourquoi ma main droite se crispe. C'est désespérant.
Avant ton pote, respire, admire le paysage. C'est magnifique, ces nuances de vert, les mousses, les trèfles, les herbes. Imprègne-toi de cette contemplation, ton poignet fera le reste, tout en souplesse.
Je ne voyais pas les choses comme ça, mais c'est une méthode.
C'est la méthode Rousselet.
André a toujours été mon meilleur conseiller, même sur un terrain de golf. Ça vous aurait plu, la politique, Pinjot ?
Oh non, Dieu merci. Nous sommes industriels de père en fils. Mon père a travaillé chez nos cousins Michelin. Ensuite, il a créé l'usine, je l'ai reprise et puis...
Il n'est jamais trop tard pour changer. Tenez, moi, par exemple, je quitterai bien le corps préfectoral pour aller pantoufler un temps dans le privé. À nos âges, on se lance. Vous avez encore la mine d'un débutant, Pinjot. Vous êtes tout fringant.
Pour me faire dévorer tout cru par des vieux renards comme vous, Mitterrand.
Hein ah, justement, la place est libre.
Bourgès Monoury ne vous a pas proposé de reprendre votre poste de garde des Sceaux ?
Le président Coty sait très bien que désormais je serai président du Conseil ou rien.
Et alors ?
Il a hésité. Et puis, que voulez-vous ? Pour moi, ce sera un retour à l'Assemblée à l'automne.
Si je puis me permettre, votre position sur les événements algériens ne vous a pas aidé.
Vous dites événements ?
Eh oui, pourquoi ?
Non, pour rien.
Vous prendrez bien un verre de moscatel ?
Avec plaisir.
Thérèse ? Veux-tu bien nous servir un moscatel, s'il te plaît ? Oh, et puis viens saluer nos amis. Je vous présente mon épouse, Thérèse Pinjot, que vous avez peut-être déjà aperçue.
Messieurs.
Mes hommages, chère madame.
Santé, madame.
Très heureuse.
François Mitterrand, notre voisin, et l'un de ses amis et chef de cabinet, André Rousselet.
C'est votre deuxième année à Osgore, n'est-ce pas ?
Nous allions auparavant sur l'île de Ré, mais... Daniel, mon épouse, ne supportait pas le climat pluvieux.
Ah, et elle se plaît, Osgore.
Oh, beaucoup. Le lac, les dunes.
Je vous y ai aperçu l'autre jour sur les dunes, avec votre chien.
Et Cernou, veux-tu ? Vous serez désormais mes partenaires de prédilection. Oh, c'est décidé, je ne veux plus disputer la moindre partie de golf sans vous.
Des partenaires comme nous valent de l'or, n'est-ce pas? Nous perdons à tous les coups.
Oh. Tu as fait combien?
85.
Il est redoutable.
En effet.
Messieurs.
Merci.
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 À la vôtre.
À la vôtre.
À la vôtre. Rafraîchissant. Encore t'es amoureux?
J'adore.
Oh, notre petit chat sort de sa tanière. Je vous présente ma fille, Anne. Bien saluer ces messieurs. François Mitterrand est notre voisin.
Bonjour, monsieur.
Mademoiselle.
Monsieur.
Anne. Tu as quel âge, Anne?
14 ans.
J'ai un fils de 11 ans. C'est un garçon, mais si tu veux venir t'amuser avec lui, qu'est-ce que tu aimes faire, Anne?
Dessiner.
Dessiner? Quelle chance. Ma main est tellement incapable de saisir les formes et les couleurs. J'admire cela.
Elle est passionnée par le Moyen-Âge.
Ah. Et les filles, aujourd'hui.
C'est très beau d'être passionnée.
J'aime aussi les livres.
Qu'est-ce que tu lis en ce moment?
Stendhal. Et vous?
Anne. On ne pose pas de questions, hein, monsieur.
Mais si, laissez. Moi aussi, c'est ma passion. Stendhal, les promenades dans Rome. Je te prêterai des livres, si tu veux.
Ah oui, merci.
C'est pas si c'est vraiment nécessaire.
Oh, mais j'ai toute une bibliothèque ici.
Août 1957. François Mitterrand, 41 ans, est un homme politique à la carrière nationale. Ancien ministre de l'Intérieur et garde des Sceaux, il a été l'un des plus jeunes ministres de l'histoire de la République. Mais sa carrière marque le pas. Son parti a subi une cuisante défaite aux législatives et ses positions sur l'Algérie ont divisé l'opinion. À l'automne, il va redevenir simple député de la Nièvre. Et ce début des années 60 s'annonce comme une traversée du désert dont l'attentat manqué de l'Observatoire sera l'amorce. Cependant, ce que François Mitterrand ignore encore, c'est que la jeune fille de 14 ans qu'il vient de rencontrer chez ses voisins d'Osgore va devenir son grand amour durant 35 ans. Anne a 19 ans quand François Mitterrand la croise à nouveau durant l'été 1962. C'est devenu une jeune fille. Elle désire monter à Paris pour suivre l'école des métiers d'art. Les parents Pinjot chargent alors François Mitterrand de jouer les tuteurs. 27 ans les séparent, mais Anne et François vont devenir amants. Et pas un jour ne passe sans que François n'écrive à Anne.
Faut-il attendre vendredi pour nous voir, comme deux fonctionnaires de la joie? Vous êtes Anne, et depuis de longs mois, mon goût, ma joie de vivre, mon espérance quotidienne, vous avez été constamment la plus proche, la plus sensible et la plus merveilleuse amie du cœur et de l'esprit. Vous êtes la femme que j'aime. Anne, qu'est-ce que vous avez?
Mais rien.
Ça ne vous amuse plus, nos balades sur les quais de Seine?
C'est toujours pareil.
Avec les livres, rien n'est jamais pareil.
Vous aimez flâner parmi les bouquinistes. Moi, à force, je m'ennuie.
Je ne vous comprends plus, j'ai le sentiment que vous m'évitez. 4 jours sans nous voir, et puis là, vous êtes fuyante.
Je commençais à vous oublier.
Comment pouvez-vous me dire ça?
Vous et moi, ce n'est qu'un flirt, François. Il ne faut plus.
Plus nous voir?
Tout est faux entre nous. Au fond, je ne connais rien de vous.
Et toutes ces lettres dans lesquelles je vous ouvre mon cœur?
Vous ne vous adressez qu'à vous-même dans ces lettres.
Ce n'est peut-être pas toujours à vous que je parle dans ces lettres, mais c'est à cause de vous que j'ai envie de parler. Je n'ai rien dit à personne pendant des années. Je m'ouvre à vous comme jamais je ne l'ai fait.
Vous êtes un coquillage?
Je suis votre coquillage, Anne. Si vous saviez comme j'ai appris à garder pour moi seul mes ambitions et mes peines. Avec vous, je suis comme délivré. J'ai besoin de vous. Je suis heureux avec vous.
On regarde, François.
Ah, voilà le retour de la morale, votre côté bourgeois catholique de province. Qu'est-ce que vous voulez, à la fin?
J'aimais mieux avant.
Eh bien, moi, je préfère maintenant. Parce que maintenant contient aussi avant.
Vous avez toujours le dernier mot.
C'est que vous me poussez dans mes retranchements. Comment voulez-vous que je sois tranquille? Je vous sens proche et puis, pfft, plus rien, Anne s'est envolée. Et c'est moi le coquillage qui se referme, l'homme blasé, superficiel, infidèle.
Vous êtes fidèle?
J'ai moins de maîtresses que vous n'avez d'amants.
Je n'ai aucun amant à part vous.
Et celui du service militaire, celui du feu follet, celui du commerce, celui de l'agriculture, celui de l'industrie.
Vous vous moquez.
Tous ces jeunes prétendants des soirées dansantes pour lesquelles vous vous sapez comme une princesse. Je déteste ces rallyes où vous pousse votre mère.
Elle me cherche un bon parti.
Vous en avez un ?
Vous êtes mariée, je crois. Et puis, notre différence d'âge...
Vous avez 20 ans, mais vous possédez le monde.
Ça n'est pas raisonnable.
Vous ne disiez pas ça avant. Vous avez oublié notre premier rendez-vous à la mer sauvage, notre 15 août à Osgore. Vos yeux verts étaient magnifiques.
J'ai besoin de liberté.
Anne, embrassez-moi.
Ici ?
Je ne pense jamais à ton corps quand tu es loin de moi. Je t'ai aimé longtemps avant d'en connaître le goût. Mais pourquoi le taire ? Près de toi, uni à toi, en toi, je suis. L'incroyable paradoxe. Je suis à l'instant même où je me fonds en toi. Cet accord, Anne, tant de vies ne le posséderont jamais, et ma vie n'a plus besoin de Venise illusoire, d'amour-plaisir, de course autour du monde et de soi-même, depuis que tu me l'as donné. Ce matin, le polo, choisi en pensant qu'il te plairait peut-être, portait encore ton parfum. Mon émotion, quand je l'ai perçue, allait au bord des larmes.
À vous, Paris.
À propos de l'affaire Mitterrand-Pesquet, Jacques Février, on sait peut-être...
1964. François Mitterrand publie « Le coup d'État permanent ». Il y fustige un pouvoir marqué par la confiscation des libertés démocratiques. Dans cette 5e République naissante, le nouveau leader de la Convention des institutions républicaines fait figure de premier opposant au régime instauré par De Gaulle. Persuadé qu'il va mettre plusieurs années à revenir au pouvoir, Mitterrand prend son temps. Il s'organise, cultive sur le terrain son capital sympathie et retrouve, grâce à Anne, cette énergie nécessaire aux batailles politiques. Dans le secret de leur relation, Anne et François sont passés de la liaison amoureuse à la certitude d'aimer. Lui tient à leur rituel de lettres quotidiennes et de promenades dans Paris, d'échappées belles à Venise ou Amsterdam. Il fait sans cesse le bilan de cette histoire d'amour qu'il façonne comme il façonnerait la grande histoire. Mais très vite pour François Mitterrand, le combat politique se mêle à la douleur d'une relation amoureuse en point de suspension qu'il s'agit de préserver du poids de l'absence et du regard des autres.
Ah, mon cher François, quelle bonne idée de venir dîner à Barbizon sous ses platanes.
N'est-ce pas ? Il faisait une telle chaleur à Paris.
Ce melon est délicieux.
Pas trop sucré, juste ce qu'il faut.
François, c'est la première fois que nous partageons un repas tous les deux en tête-à-tête. Alors je crois que c'est peut-être l'occasion d'évoquer...
Anne ?
Oui ?
Je suis très heureux qu'elle ait pris la décision d'être monitrice dans cette colonie. Elle a osé aborder une tâche si différente, si contraire à sa nature. Cet équilibre entre l'action et la méditation, l'amour et le don de soi, c'est le secret d'une vie féconde. Je suis très fier d'elle.
Moi aussi. Mais je voulais évoquer votre relation avec ma fille.
Ce n'est plus un secret pour personne.
Mais c'est une question qui demeure. Nous vous avions confié, Anne. Nous cherchions une sorte de chaperon, de tuteur, pas un amant.
Je n'ai rien cherché, ma chère Thérèse, et Anne non plus, ça nous est tombé dessus.
Mais comment une chose pareille est-elle possible ?
Comment expliquer la foi ?
La foi ?
Votre foi en Dieu, vous ne pouvez pas l'expliquer. Pas le moindre raisonnement ne viendra à votre secours. Eh bien, mon amour pour Anne ne s'explique pas non plus. Il est comme la grâce. C'est incompréhensible, n'est-ce pas ?
Oui.
Mais c'est ainsi, comme la résurrection pascale, inexplicable. J'ai pour Anne un attachement dévot.
Mais... Anne n'a que 21 ans.
Oui, c'est un mélange curieux de femme et d'enfant. Elle est certainement la fille que j'aurais rêvé d'avoir. Freud doit se régaler, mais qu'y faire ? Ni mon âge, ni mon état ne m'autorise cet amour. J'ai longtemps essayé d'y échapper. C'est plus fort que moi.
Enfin, François, tout le monde sait que vous êtes un Casanova. Qu'est-ce que c'est qu'aimer pour vous ? Vous voulez posséder, prendre, voilà tout.
Ma chère Thérèse, un homme qui aime n'est pas nécessairement un homme charnel.
Vous envisagez de divorcer ?
Pas du tout.
C'est à cause de vos valeurs catholiques ?
Non.
Vous craignez que cela nuise à votre carrière politique ?
Ma carrière, on a vu d'autres. Je ne renoncerai pas plus à Anne que je n'abandonnerai Daniel. J'aime Anne profondément, sans doute comme jamais je n'ai aimé. Mais Daniel m'a toujours soutenu. Je ne peux pas oublier son courage pour préserver ma dignité dans l'affaire de l'Observatoire. Elle était là, elle s'est battue avec moi. Il est hors de question pour moi de renoncer à un engagement que j'ai pris.
L'année 1965 marque l'apogée de la relation amoureuse entre Anne et François. Anne étudie désormais le droit à l'université d'Assas et poursuit sa formation en art à l'école du Louvre. Le droit lui a été recommandé par François Mitterrand. C'est même lui qui choisit cet aidé pendant qu'Anne part à Lourdes assister des malades. Lui qui l'aidera plus tard à préparer, entre les deux tours de l'élection présidentielle de 65, où il se présentera face à De Gaulle, sa dissertation sur les syndicats de communes. C'est dire comme leur union est devenue une façon de regarder ensemble dans la même direction.
Tu es reine d'un royaume où respire mon âme. J'aime mes mains qui ont caressé ton corps. J'aime mes lèvres qui ont bu en toi. J'aime le goût de ton être mêlé de soleil et de lumière. Avant de m'endormir, j'ai évité de frotter la journée de mon corps à grande eau comme je fais toujours, pour garder la trace, ton parfum, ta présence vivante sur lui. Tu m'occupes tout entier.
Ah, mon amour, comme c'est bon d'être avec toi, sous ce ciel. Tu as vu comme les étoiles sont belles ce soir ?
J'aime regarder les mêmes étoiles que toi.
Le firmament de l'amour. J'aimerais revenir ici toutes les nuits. Que ce soit toujours l'été à Osgore, qu'on fasse toujours l'amour sous ce chêne, ce serait notre ciel de lit. Allongé sur la mousse, caché parmi les genêts.
J'aime ta bouche, cette petite pêche sucrée.
Non ! Non ! Ça suffit maintenant, le péché de la chair. Vous êtes un incorrigible gourmand, monsieur Mitterrand.
Ah, me reviens, où vas-tu ?
Je suis comme la chèvre de monsieur Seguin. Je m'enfuis vers la grande montagne. J'aime la liberté.
Je vais te dévorer, Blanchette.
François ? Viens voir. Il y a une maison. Elle a l'air abandonnée.
Pas de porte. Pas de fenêtre.
Pas de lumière non plus.
Elle te plaît ?
J'aimerais vivre ici avec toi jusqu'à la fin des temps.
Alors il faut l'acheter.
Tu ferais ça ?
Ce serait notre maison, notre lieu de rendez-vous, notre secret.
Je veux revenir demain, quand il fera jour. Je dessinerai les plans de la maison et puis les aménagements. Là, une cheminée, et puis là, une grande table pour que tu puisses y écrire et moi travailler mon droit.
Ah, tu as vu là-bas ? Il y a une bergerie. Elle doit faire partie du terrain.
Oh, François. Comment s'appelle ce coin, tu le sais ?
Lacce.
Notre maison de Lacce. Notre nid d'amour, notre paradis. François ? À quoi penses-tu ?
J'étais ailleurs.
Une autre femme ?
Une élection. Tu sais combien cette décision est grave ?
Tu es certain de vouloir te présenter face à De Gaulle ? Est-ce bien prudent ?
Il faut savoir écouter les commandements du destin.
Le 9 septembre 1965, François Mitterrand annonce sa candidature à l'élection présidentielle. La première au suffrage universel.
France Inter,
le Parti socialiste a fait bloc pour lui demander de mener le combat. Mitterrand sait bien qu'il ne s'agit pas de l'emporter face à De Gaulle, mais de prendre sa place quand il ne sera plus là. Le 20 novembre 1965 débute la première campagne officielle à la télévision. François Mitterrand y apparaît rigide et maladroit. Lui-même n'y croit pas. Pourtant, lorsque tombent les résultats du premier tour, c'est l'étonnement général. Mitterrand met De Gaulle en ballottage. Le 19 décembre 1965, le candidat de la gauche obtient 44,8% des voix contre 55,2% à De Gaulle. C'est le commencement du renouveau politique de François Mitterrand. Et cette force vive, il la doit à Anne, qui stimule ses désirs, sa soif de vivre, sa drôlerie.
Tu as osé m'éliminer de ton emploi du temps. Et pourtant, ma chérie, je suis très content de moi. Ah, menteuse, avec tes courbes. Eh bien, la mienne continue de filer vers le haut, vers le ciel, tandis que tu mégotes, traînasses, tes filoches, ramasses les papiers oubliés, accroches les papiers des passants. Demain, tu travailles. C'est le comble. Tu n'as pas assez d'un maréchal dans la famille, pas assez de mentions, pas assez de major, pas assez de monographies à 19 sur 20, pas assez de slaves, d'italiens, de barons. J'ai compris, tu veux éblouir le tout Clermont avant d'émerveiller le tout Osgore. Tu veux épater la rue du Cherche-Midi jusqu'au numéro 99. Tu veux séduire ces agrégatifs laissés pour compte. Tu veux parader avec des feuilles de diplôme cousues sur tes robes de bal. Tu veux bomber le torse sous les décorations. Bref, donnant, donnant. Je t'aime avec mon sang, tu m'aimes avec de l'encre.
La relation entre Anne et François est ponctuée de grandes envolées amoureuses et de ruptures fréquentes. Anne essaie souvent de quitter François. Mais la fascination pour cet homme, avec lequel elle ne s'ennuie jamais, l'emporte toujours. Et le temps qui passe ne parvient pas à entamer cette passion.
Française, français.
L'année 1968 a été éprouvante pour François Mitterrand. Durant les événements, il a voulu prendre le pouvoir au sein de la FGDS et se présenter à l'élection présidentielle. Mais rien n'a tourné comme il l'entendait. De Gaulle a dissous l'Assemblée, Mitterrand se retrouve seul au Parlement, abandonné par ses camarades. Il faudra qu'il attende le départ de De Gaulle et le Congrès socialiste d'Épinay en juin 1971 pour enfin rebondir. De son côté, Anne arrive seconde au concours national de conservateur des musées et gagne ainsi son indépendance sociale.
Anne ? Anne, mon amour, c'est moi. Ouvre. Tu es là? Pourquoi tu ne réponds pas? Tu ne réponds plus à rien, plus à mes lettres. Je t'ai appelé hier soir, tu n'as pas décroché. Ce matin non plus. Je suis allé place Saint-Sulpice à 9h, tu n'y étais pas. J'ai l'impression que tu t'éloignes de moi. Tu es distante. Je sais que je n'ai pas le droit de t'empêcher de vivre. Mais que toi, tu puisses jouer à ce jeu-là dans les bras d'un autre, avec l'alcool, la danse, on va se brûler les ailes, à force. La nuit dernière, je ne devrais pas te dire ça, mais j'ai rêvé que tu rentrais tard et tu m'avouais que tu étais allé boire un verre avec un garçon chez lui et que vous aviez fait l'amour. Je me suis réveillé en nage. J'étouffais. Anne... Ça ne te fait rien. Tu es cruelle. Tiens, je t'ai écrit. C'est un poème. Je te le glisse, tu le liras. Quand je serai parti. Anne ?
Ah, tu es là ?
Oui, je suis venu pour... Tu as changé de coiffure ?
Ça ne te plaît pas ?
Si. Je suis désolé pour vendredi, j'ai eu un quart d'heure de retard à notre rendez-vous.
Ah ?
Tu ne m'as pas attendu.
Sûrement.
Même un quart d'heure. Tu ne réponds plus à mes lettres, tu ne décroches plus le téléphone.
Tu dois être la réincarnation d'un ancien chien, François. Tu fais ta ronde autour du troupeau pour que tout le monde reste dans ton cercle. Tu ne supportes pas qu'on quitte le cercle. Et le moyen que tu as trouvé pour maintenir le troupeau dans ce cercle, c'est le téléphone.
Tu aimais ce cercle avant. Tu me fuis, Anne. Pourquoi ?
Tu m'enfermes, François. Tu m'étouffes.
Je ne te reconnais pas.
J'ai gagné mon indépendance avec ce concours de conservateur. J'ai brisé le cercle, alors ça te panique.
Qui t'a poussé à la licence de droit ? Tu m'en veux pour Latché, c'est ça ?
Tu as vendu Osgore pour aménager Latché. Tu as fait de cette maison votre maison de famille avec Daniel. Tu m'as trahi, François. Latché, c'était notre rêve. Notre maison, notre paradis.
J'ai acheté la maison de Gordes pour nous. Tu n'es pas heureuse à Gordes ?
On n'abandonne pas le paradis pour un simple purgatoire. Rentre chez toi. Bonsoir.
Oh, pardonne-moi.
Je suis fatiguée. Fatiguée du toujours pareil, fatiguée de la voie sans issue, fatiguée d'avoir de la peine, fatiguée de ces vies parallèles, fatiguée de cette vie de roulotte. Je suis fatiguée.
Je comprends. Cela fait 7 ans, toi et moi. Nous avons besoin de changement.
C'est toi qui as glissé cette lettre sous la porte ?
Oui, c'est un poème. Tu le liras quand je serai parti.
Bonsoir, François.
Tu es sorti boire un verre ce soir ? Dès que tu peux mettre un pied hors des barreaux de ta prison d'amour, tu te précipites. Tu as quelqu'un d'autre, c'est ça ?
Arrête. Tu te racontes des romans, et moi je ne suis qu'un personnage enfermé à l'intérieur d'un de ces romans.
Mais je t'aime avec ma chair, avec mon sang. Je suis déchiré, brûlé, dévoré. Laisse-moi entrer.
Il est tard.
Juste un instant.
Je préfère que tu rentres chez toi ce soir. Ne m'écris plus, ne m'appelle plus, fais-toi désirer. On pourrait ne plus se voir pendant un temps, ce serait original, non ?
Anne ! J'ai besoin de tes bras, je suis tellement... J'ai les jambes qui tremblent, comme toi le premier jour à Osgore, sur la plage. Tu te souviens ? Oh, ma merveille, je suis à toi, fais de moi ce que tu voudras. Tu es ma fille, mon amante, ma femme, ma sœur, mon toujours, ma source du fond des âges, ma claire jeune fille au péplum rouge, ma joie.
Oh, tu es terrible. Mon amour, non ? C'est toujours pareil. Je me sens comme la petite chèvre qui se débat. Et puis au matin, je cède. Tu m'as forcé l'autre jour. Je ne voulais pas. Et tu m'as forcé.
Avons-nous à composer, à mesurer ? Quand on aime, rien n'est assez, rien n'est trop. Anne, tu es l'amour de ma vie. Nous avons besoin de créer ensemble. Il nous faut une œuvre commune.
Alors fais-moi un enfant.
Un enfant ? Tu penses sérieusement qu'un enfant peut trouver sa place dans cette vie ?
Alors il n'y a pas de place pour moi non plus dans ta vie, François. J'en ai assez d'accepter l'inacceptable. Je crois que le mieux est qu'on se sépare, définitivement. Rentre chez toi. Allez.
Julien.
Julien. Qui est Julien ?
Si c'est un garçon, je verrais bien Julien. Ou Laurent. Comme Laurent de Médicis.
Ah oui ? Et si c'est une fille ?
Ariane ou Mazarine.
Mazarine.
J'aime ton visage qui se penche, le trouble ourle tes traits, la caresse de tes mains faites pour les fruits, les fleurs et la douceur d'aimer. Je sens en moi la grande houle du désir et ton corps au-dessous de moi qui s'incurve et qui s'ouvre. Tant que j'en ai la force, je te regarde, mon amour, et je lis sur toi l'approche du mystère, le passage à l'indéchiffrable.
C'était Lettre d'amour de François Mitterrand, de Renaud Meyer, avec Mathieu Marie, Pauline Moulin, Sonia Masson, Joachim Salinger, Belaïd Boudelal, Emmanuel Monteil. Avec les voix d'Amandine Rousseau, Annelise Ketves, Frédéric Andreau. Bruitage, Elodie Fiat. Prise de son, montage, mixage, Claude Niort, Amandine Grévoz, Louis Bardinet. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux, Barbara Echmati. Réalisation, Laurence Courtois.
Mamie de grâce, ne mettons pas sous la gorge à Cupidon sa propre flèche. Tant d'amoureux l'ont essayé, qui de leur bonheur ont payé ce sacrilège. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Laissons le champ libre à l'oiseau. Nous serons tous les deux prisonniers sur parole. Au diable les maîtresses que qui attachent les cœurs aux queues des casseroles. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Vénus se fait vieille souvent, elle perd son latin devant la lèche frite. À aucun prix moi je ne veux effeuiller dans le pot-au-feu la marguerite. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. On leur ôte bien des attraits en dévoilant trop les secrets de Mélusine. L'encre des billets doux pâlit vit entre les feuillets des livres de cuisine. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Il peut sembler de tout repos de mettre à l'ombre au fond d'un pot de confiture la jolie pomme défendue, mais elle est cuite, elle a perdu son goût nature. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. De servante n'est pas besoin, et du ménage et de ses soins, je te dispense. Qu'un éternel fiancé à la dame de mes pensées, toujours je pense. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin.
France Inter.
Dans son dernier numéro, Paris Match brise un des tabous de la presse française, celui de la vie privée des hommes politiques, en publiant des photos de François Mitterrand en compagnie d'une jeune femme de 20 ans, présentée donc comme sa fille. Elle s'appelle Mazarine, on la voit sur une double page sortant d'un restaurant parisien à côté du président. La légende souligne que François Mitterrand vient de déjeuner donc avec sa fille et qu'il ne cache plus. Patrick Mahé, vous êtes rédacteur en chef de Paris Match. Est-ce que d'abord la décision a été difficile à prendre? Est-ce qu'il y a eu débat? Puis vos raisons? Et puis est-ce que vous avez une réaction de l'Élysée?
La décision a été évidemment un peu difficile à prendre, puisque ce n'est pas la première fois d'abord qu'on nous soumet des photos de Mazarine. On aurait pu en publier il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Mais à l'époque, d'abord, Mazarine était une enfant, elle était mineure, Et en effet, nous sommes rendus aux raisons de Philippe Alexandre que nous avons interviewé, que Catherine Pancol a rencontré, et qui nous a bien transmis ce sentiment qui est le sien, mais profondément, que arrivé à la fin de son parcours, François Mitterrand a envie de mettre vraiment de l'ordre dans sa vie, dans son existence.
C'est-à-dire que sur le plan éditorial, vous vous dites, et la rédaction de Paris Match, ça fait partie de la vie publique.
Absolument, puisque c'est une famille morganatique, comme on l'appelle, et donc le président a vécu une double vie avec une autre femme et sa fille depuis 20 ans. Et donc il était normal que ce qui se savait dans Paris, ce qui bruissait dans le 8e arrondissement, dans le microcosme, comme aurait dit un homme politique, eh bien soit révélé au moment où, justement, il ne se cache plus. Elle était, Mazarine, à la réception de l'Élysée lorsque l'empereur et l'impératrice du Japon sont venus. Il l'a emmené en Afrique du Sud en voyage, et ce n'est pas la première fois qu'il fréquente des restaurants fréquentés eux-mêmes par le tout Paris, journalistique ou politique.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Affaires sensibles à la fiction, aujourd'hui Lettre d'amour de François Mitterrand, notre invitée Laura Adler, écrivaine, journaliste, aujourd'hui productrice sur France Inter. Bonjour Laura Adler.
Bonjour Fabrice.
Votre CV est long comme le bras, alors je rappelle juste, en rapport avec notre sujet, que vous avez été conseillère culturelle à l'Élysée, que vous êtes aujourd'hui productrice sur France Inter de L'Heure Bleue, tous les soirs à 20h, je passe quelques éléments de votre biographie. D'abord, comment avez-vous rencontré François Mitterrand?
Un jour, j'ai reçu un coup de téléphone de la présidence de la République, c'était un samedi. Et ce coup de téléphone me demandait de venir toutes affaires cessantes à l'Élysée pour rencontrer le président. J'avais voté pour lui, il m'intéressait depuis pas mal de temps, j'avais le cœur à gauche, jamais je n'aurais imaginé qu'un jour je puisse rencontrer le président. Je me suis donc rendue à son invitation, c'était un samedi après-midi, inutile de vous dire que c'était la première fois que je franchissais les grilles de l'Élysée, que je rentrais dans cet univers feutré. L'Élysée était désert, seul veillait dans ce palais le secrétaire général de l'époque était Jean-Louis Bianco, qui m'a reçu. Lui non plus ne savait pas pourquoi le président voulait me voir. Le président nous a fait attendre pendant au moins 40 à 50 minutes. Et puis il a déboulé dans le bureau de Jean-Louis Bianco et il a dit « Excusez-moi, j'ai oublié le temps, je regardais en direct à la télévision le match de rugby. » Et là, je suis rentrée dans son bureau, je ne marchais pas droit, j'étais très intimidée, je ne pouvais pas dire trois phrases qui tenaient debout. Il m'a fait m'asseoir et puis il a commencé à parler comme si j'étais intéressante, alors que j'étais rien ni personne. Et ça, c'est un trait de son caractère le plus profond. Chaque personne existait. Et il s'intéressait à la vie des gens, quel que soit l'itinéraire des personnes et l'expérience des personnes. Moi qui ai eu la chance de pouvoir être son conseiller culturel et de l'accompagner partout, en province, mais aussi à l'étranger, de pouvoir visiter des villes, des villages, des cathédrales, des petites églises, de rentrer dans des musées, de le voir parler avec des gens, vraiment, il s'intéressait aux autres. Grâce à la qualité d'écoute de cet homme qui était président de la République, j'ai oublié que j'étais avec le président de la République.
Alors, je tiens dans mes mains le dernier livre que vous avez écrit concernant François Mitterrand, qui s'appelle « Journée particulière ». À ce moment-là, c'est en 2015, je crois. À ce moment-là, est-ce que vous étiez au courant des lettres de François Mitterrand, qu'elles existaient? Est-ce que vous en connaissiez la teneur?
Pas du tout. Pas du tout. Alors que je l'avais interrogé à de nombreuses reprises, alors que j'avais eu la chance, là aussi, par une circonstance de hasard familial, quand je suis entrée à l'Élysée comme conseillère culturelle, Mitterrand savait que je savais. Je savais quoi? Je savais par l'intermédiaire de ma famille qui habite Clermont-Ferrand, vous voyez, ça explique.
Anne Pinjot, Clermont-Ferrand,
voilà,
d'accord.
Anne Pinjot a été dans le même lycée que moi, elle est plus âgée que moi. Mais mes parents connaissaient les parents d'Anne Pinjot depuis longtemps. On savait qu'une histoire existait. Pas mal de gens le savaient à Clermont-Ferrand. Et mes parents savaient que Anne Pinjot
entretenait une relation.
Pas seulement vivait une double vie avec François Mitterrand, mais était aussi la mère d'une petite fille. Donc, le premier jour, j'arrive à l'Élysée comme conseillère culturelle. Le président me convoque, m'explique en gros ce qu'il attend de moi, puis il me raccompagne devant le grand escalier, et puis il me dit « Je sais que vous savez, Je sais que vous savez, mais ça restera entre nous. Et effectivement, c'est resté entre nous. Donc je savais que Anne Pinjot existait, je savais que Mazarine existait. D'ailleurs, à un moment de la collaboration que j'ai eue avec François Mitterrand me demandera à plusieurs reprises de choisir des restaurants pour Mazarine et lui. Et le lendemain, il me faisait le débriefing en me disant « Dites donc, vous n'êtes pas tellement branché, parce que je me suis fait engueuler par Mazarine. » Elle m'a dit que l'endroit où j'avais réservé pour le dîner était vraiment, vraiment complètement ringard. Donc il fallait qu'en plus, je choisisse des endroits qui étaient à peu près branchés. Mais n'empêche que c'est resté entre nous. Mais je ne savais pas du tout, et Mitterrand ne m'en a jamais, jamais, jamais parlé, et je pense qu'il en a parlé à de très rares interlocuteurs. Je n'ai pas la prétention de dire que j'étais une des confidentes de Mitterrand. Mais en tout cas, moi, j'ai tombé des nues quand l'annonce de cette correspondance est sortie. Et inutile de vous dire que j'ai passé des nuits blanches à la lire.
Et c'est un pavé, hein? C'est,
passionnant.
Passionnant. C'est
un roman vrai.
1200 pages.
Ouais. Ah, bah oui, mais on s'ennuie pas une seconde.
Bon, le Radler, on en parle dans 3 minutes. Là, on va entrer dans les textes, hein, de ces lettres. Inter, notre maison commune, pour parler des lettres à Anne, donc publication des lettres envoyées par François Mitterrand à Anne Pinjot. Dans la première lettre qu'il lui envoie, le 19 octobre 1962, puisque la période court de 62 à 95, François Mitterrand s'engage à lui trouver le volume, Anne, sur Socrate, dont il lui avait parlé un soir à Osgore. Il écrit « Ce petit livre sera le messager qui vous dira le souvenir fidèle que je garde de quelques heures d'un bel été. » Le souvenir fidèle. Il y a le mot « fidèle ». Pourtant, c'est pas celui qu'on attribue par réflexe, ce qui est une erreur d'ailleurs, à François Mitterrand. Fidèle. Il était fidèle à deux femmes.
Il était fidèle à l'amour, à sa définition qu'il a érigée au cours de son existence de l'amour. Il était un homme du 19e siècle et un homme du 20e siècle en même temps. Il était un fou amoureux de Stendhal. Et je pense qu'il a une définition de l'amour très stendhalienne, c'est-à-dire un sentiment qui vous porte haut et loin et qui vous surélève en permanence. Mais un sentiment qui ne vous encage jamais au niveau de l'existence et au niveau de la sensation de la liberté que cela peut vous procurer. Mitterrand est, je pense, en lisant cette correspondance, on en est presque sûr, un hédoniste. Quelqu'un qui croit en l'amour ne croit pas forcément que avoir plusieurs histoires d'amour, c'est forcément ne pas être infidèle. Je pense qu'il est fidèle à lui-même et à sa définition de l'amour. Je pense personnellement, pour avoir connu Daniel Mitterrand, je pense qu'il était très amoureux, et ce jusqu'à la fin de sa vie, de Daniel. D'ailleurs, il n'a jamais divorcé de Daniel. Il est resté fidèle à Daniel jusqu'au bout. Je pense qu'il est tombé fou amoureux de Mazarine, ça c'est sûr.
Oui, en tant que père, bien sûr.
Mais fou amoureux de la mère de Mazarine, c'est-à-dire d'Anne, et qu'il est resté fidèle à ses trois amours de manière conjointe. C'est-à-dire que ces trois personnes, Mazarine, Anne et Daniel, étaient étroitement imbriqués dans sa définition de l'amour.
C'est un cœur à trois volets, quoi. Trois...
Il est un bourgeois.
Ouais.
Il est un bourgeois du 19e siècle qui pense que, eh bien, on se marie pour avoir des enfants. On peut, en étant un bourgeois, continuer à être amoureux de sa femme, dont il disait en riant, mais il le pensait sérieusement, que Daniel était plus à gauche que lui. Et je pense qu'il avait raison en le disant. Il était très impressionné par Danielle Mitterrand parce que elle a témoigné jusqu'à la fin de son existence d'un esprit de liberté, d'un non politiquement correct, etc. Et d'autre part, Daniel le faisait beaucoup rire. Il était très amoureux de Mazarine. Il était très amoureux d'Anne, qu'il a connue quand même, quand Anne avait l'âge de 14 ans. Je ne sais pas en quels termes on dirait sociologiquement comment un monsieur d'une quarantaine d'années tombe amoureux d'une jeune fille en train d'éclore. Mmh. C'était une jeune fille en fleurs. Pour paraphraser Marcel, notre ami Marcel,
à l'ombre.
Il tombe amoureux de l'amour. Et Anne va incarner une des définitions de l'amour. Au fur et à mesure que cette histoire va commencer, je dirais que François Mitterrand, quand on lit cette correspondance avec passion, on voit que non seulement il est amoureux d'elle, d'Anne, mais exactement comme dans Marcel Proust et dans le livre intitulé La prisonnière avec Albertine, il va l'encager. Il va la rendre prisonnière, c'est-à-dire qu'il va lui dire « Je suis amoureux de toi et tu es la personne que j'aime, mais je ne changerai rien à mon existence. Je continuerai à vivre avec Daniel et je continuerai à avoir des liaisons avec toutes les femmes que je désire et qui constituent le sel de mon existence. Ce n'est pas pour ça que je te trompe.
Mmh.
Toi, tu es jalouse, mais moi, je ne t'autorise pas, moi, puisque je suis amoureux de toi, Anne, je ne t'autorise pas à avoir la moindre liaison.
Oui, mais c'est une construction qui tient avec la complicité de l'autre. Pas forcément facile.
Eh bien, vous avez vu dans la correspondance qu'à plusieurs fois, elle menace
de
s'en aller. Ben d'abord, elle lui dit, tu n'arrêtes pas de me répéter que tu es amoureux. Alors tu le prouves. Parce que moi, j'ai 30 ans, je vais avoir un enfant, je paye très cher mon existence d'intellectuel. Anne est une grande intellectuelle devant l'Éternel. Donc elle prend son autonomie intellectuellement.
Mmh.
Mais en même temps, elle reste prisonnière du secret de Mitterrand, parce qu'elle n'a pas le droit de dire qu'elle vit une double vie avec Mitterrand. Mais en même temps, elle lui dit « Eh ben moi, je veux un enfant ». Et Mitterrand lui dit « Mais moi, des enfants, j'en ai, j'en veux pas ». Alors dans la correspondance, on le lit, Mitterrand dit « Non, moi je céderai pas là-dessus, je ne veux pas d'enfant, je suis trop vieux, je pourrais pas être père, ça serait indécent, etc. » Alors elle lui dit « Écoute, excuse-moi, mais je vais m'en aller, je romps définitivement avec toi. Ben, » Heureusement, Anne réussira à convaincre François Mitterrand et cette merveille qu'est Mazarine naîtra. Et là, c'est extraordinaire aussi. À partir du moment où il y a la naissance de Mazarine, là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, parce qu'il tombe, quand je dis qu'il tombe amoureux de Mazarine, il tombe amoureux de cette paternité qui, sans doute, lui a été volée avec la naissance de ses deux premiers garçons, parce qu'il avait sans doute pas le temps quand il était député. Vous me direz, en tant que président, il aurait dû avoir encore moins de temps. Ben non, il prendra le temps de voir et d'assister à toutes les métamorphoses de Mazarine et de voir, nous en tant que lecteurs de cette correspondance, on voit que l'amour pour Anne s'agrandit, si j'ose dire, avec le cercle familial de ce trio extraordinaire. Il va lui apprendre à lire, il va lui apprendre à écrire, il va lui apprendre la beauté de la nature, la beauté du monde, etc. Et en même temps, évidemment, dans cet amour, il y a leur amour, à eux deux, à Anne et à François, qui va grandir.
Alors, l'écriture, qu'est-ce que vous avez ressenti en lisant ces mots? Parce que François Mitterrand aime les mots. Dès lors qu'ils sont adressés à un amour, les mots prennent encore plus de force. Quel regard vous portez sur la dimension littéraire de ces lettres?
Eh ben, je trouve qu'elles sont magnifiquement rédigées. Je savais que Mitterrand était un intello. Je ne savais pas qu'il aimait à ce point le cinéma. Tout le monde sait qu'il aimait beaucoup la littérature. Je ne savais pas qu'il était à ce point éperdu d'un certain mysticisme, d'une certaine altitude philosophique.
Il le laissait paraître quand même.
Oui, hein. Mais regardez tout ce qu'il dit sur le stoïcisme, regardez tout ce qu'il dit sur Platon, regardez tout ce qu'il dit sur Nietzsche. C'est vraiment quelqu'un d'hyper cultivé, mais profondément, qui n'en faisait pas montre. Et puis, moi, j'ai pensé à quelque chose, à un sentiment physique océanique qui m'a assaillie il y a quelques années, c'était, je crois, il y a 8-10 ans. Il y avait une exposition à la Bibliothèque nationale de France sur, justement, l'écriture de Marcel Proust. Et il y avait exposé pour la première fois ce qu'on appelle les paperolles de Marcel Proust. C'est-à-dire que Marcel Proust écrivait comme ça, comme s'il dansait sur la page. Et c'était extraordinaire. Et moi, quand j'ai lu cette correspondance, je me suis dit, il a une manière de danser avec les mots et de chorégraphier son amour grâce à la beauté des mots qu'il choisit et grâce à cet incessant besoin vital qu'il a, parce qu'il s'emmerde en politique. Moi, c'est ce que j'ai compris aussi. Il s'emmerde dans les conseils de ministres, il s'emmerde dans les conseils internationaux, il s'emmerde dans les avions qu'il est obligé de prendre pour aller aux quatre coins du monde, alors qu'il est malade. Il s'emmerde tout le temps parce qu'il est avec Anne tout le temps par le biais de l'écriture. Et je me dis, mais on vit quand même une période très difficile, nous. Parce que qui encore envoie des lettres?
Ah oui.
Nous, on envoie des textos.
Il y a les mails qui
sont aussi... On envoie des mails. Oui, ils sont plutôt d'ordre télégraphique. Oui. Je pense que Mitterrand, s'il vivait aujourd'hui, je pense qu'il continuerait à écrire. Moi, je me trouvais physiquement en face de Mitterrand. Il regardait avec ses lunettes, en fronçant les sourcils, la préparation des discours que je lui avais préparés. Il fronçait les sourcils, il me regardait derrière ses lunettes, et puis il prenait son stylo. Il réécrivait tout.
Qu'est-ce qu'on dit dans ces... On se dit ce que j'ai fait, c'est nul.
Bah oui.
Hein, forcément.
Oui. Non, mais c'est pour ça que tous les discours qu'a fait Mitterrand, c'est des discours qu'il a écrits lui-même. Il lui fallait une trame d'origine, mais il réécrivait sur la préparation des discours. Mais c'est pour vous dire que l'acte même d'écrire était quelque chose de sensuel. Et c'est ce qu'on sent. Il est avec elle parce qu'il lui écrit. Il y a l'abolition du temps et de la distance.
Et toute dernière chose, quand je lisais ces lettres, je ne pouvais pas m'empêcher de dire, de penser, mais enfin tout ça est très intime, qu'est-ce qu'il penserait aujourd'hui, on ne peut pas répondre à la question évidemment, François Mitterrand, de la publication de choses vraiment intimes. Moi ça me...
Je suis d'accord avec vous, on a l'impression d'être un peu des voyeurs quand on lit cette correspondance. Je ne sais pas ce qui a présidé à la publication de cette correspondance. En tout cas, il a fallu des années après la mort de Mitterrand pour qu'elle soit publiée, donc publique. Je pense que Anne Pinjot a bien fait, mais je ne sais pas. Peut-être qu'elle a voulu montrer que Mitterrand était cet homme amoureux. Peut-être a-t-elle voulu aussi nous dire, il n'y avait pas que Daniel, après tout. Je la comprends en tant que femme. Elle a eu une telle importance dans la vie d'un homme qui va rester dans l'histoire.
Bien sûr. Merci infiniment, Laura Adler.
Ben, merci à vous.
Au revoir, et puis j'invite nos auditeurs à vous écouter tous les soirs sur France Inter à 20h. Ça s'appelle L'Heure Bleue. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Lettre d'amour de François Mitterrand. Une fiction écrite par Renaud Meyer, réalisée par Laurence Courtois et Anne Nioro. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priollet. Programmation musicale, Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Céline Guéribi et Mathias Alléon.